Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 29, la mère et la fille. Blanche de Mirbel, serrant Églantine dans ses bras et l'appuyant contre sa poitrine avec une force surhumaine, franchit en quelques bonds l'escalier qui conduisait à sa chambre ou à sa prison et plaça sur le lit la jeune fille toujours sans connaissance. En ce moment, une terreur folle s'empara de son esprit et fit tressaillir son corps. « Si elle était morte » murmura-t-elle. « Oh, si elle était morte !» Alors, elle s'agenouilla auprès du lit et elle appuya son oreille contre la poitrine d'Églantine afin d'aller surprendre le mouvement et la vie jusque dans leur source. Les battements calmes du cœur la rassurèrent bien vite. Mais d'autres angoisses remplacèrent presque aussitôt l'inquiétude qui s'envolait. La malheureuse femme se dit que sans doute le seigneur de l'aigle et ses gens s'étaient aperçus de la disparition de la jeune fille qu'ils poursuivaient, qu'ils allaient chercher à découvrir ce qu'elle était devenue, et que peut-être, soupçonnant que la tour de l'aigle lui servait d'asile, il la viendrait saisir jusque-là. « Ah !» se dit Blanche, qui sentait un véritable délire s'emparer d'elle à cette pensée. « Ah ! Ils me tueront avant d'avoir seulement porté la main sur elle. » Et elle entassait les couvertures et les draps du lit, sur le corps et jusque sur le visage de sa fille, espérant que ce fragile rempart suffirait pour la mettre à l'abri de tous les regards, pour la dérober à toutes les recherches. Puis, elle se plaçait devant cette couche qui renfermait son cher trésor. Elle prenait une attitude menaçante et elle se jurait de défendre son enfant jusqu'à la mort. Mais il devint bientôt manifeste pour elle que la présence d'Églantine dans la tour de l'aiguille était ignorée du seigneur de l'aigle. Et alors, elle se livra aux plus folles démonstrations de cette joie sans bornes qui, après tant d'années de douleur et de désespoir, débordait tout à coup dans son âme. L'instinct de la maternité, comprimé jusque-là, se développait en elle avec une soudaine violence et avec d'incroyables et adorables enfantillages. Après avoir écarté les couvertures entassées sur Églantine, elle avait pris la jeune fille dans ses bras. Elle l'avait assise, ou plutôt couchée sur ses genoux, et elle la berçait comme on berce un enfant, en lui prodiguant tous ces mots si doux, syllabes charmantes, qui ne se retrouvent que dans le langage des jeunes mères, et avec lesquelles elles endorment leurs petits-enfants. Sous ses baisers et sous ses caresses, Églantine fit un mouvement léger. Après un évanouissement de près d'une heure, elle commençait à reprendre l'usage de ses sens. « Où suis-je » balbutia-t-elle d'une voix faible encore, en ouvrant les yeux et en ne voyant autour d'elle que d'épaisses ténèbres. En même temps, la mémoire lui revint. Elle se souvint des derniers événements accomplis et de l'écrasante terreur qui l'avait foudroyée en voyant le fantôme se dresser devant elle au moment où l'accuson allait l'entraîner hors du château. Et cette terreur renaissante avec le souvenir de ce qu'il avait causé, Églantine poussa un cri, voulut dénouer l'étreinte des bras qui l'enlaçaient et fit un violent effort pour s'enfuir. Instinctivement, Blanche se rendit compte de cette épouvante et s'efforça de la calmer. Elle se laissa tomber à genoux devant Églantine, dont elle saisit les deux mains qu'elle couvrit de baisers et de larmes, en murmurant d'une voix suppliante dont les accents avaient une douceur infinie. « Oh, mon enfant chéri !» « Mon enfant bien-aimé, au nom du ciel, n'aie pas peur !» La jeune fille se sentit aussitôt rassurée, sinon par les paroles elles-mêmes, qui pour elle n'offraient aucun sens, du moins par l'accent avec lequel ces paroles étaient prononcées. Il lui sembla qu'une voix si touchante et si profondément émue ne pouvait être une voix menteuse, et elle balbutia « Qui donc êtes-vous, vous qui m'appelez votre enfant ?» « Ah !» s'écria Blanche en refermant ses deux bras sur Églantine palpitante. « Qui je suis ? Je suis ta mère !»« Ma mère ?» répéta la jeune fille avec une profonde stupeur. « Oui, 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 ta mère qui t'aime de plus d'amour que Dieu n'en a jamais mis au cœur d'une créature humaine, ta mère qui donnerait sa vie entière pour sauver un seul de tes jours, ta mère qui depuis 18 ans te pleurait et se désespérait à cette seule pensée cruelle de mourir sans t'avoir revue. Ta mère, enfin, ta mère. Hélas, murmura Églantine, je voudrais bien vous croire. Tu ne me crois donc pas? Comment vous croirais-je, quand je sais que ce que vous me dites est impossible? Impossible? Pourquoi? Ma mère est morte, morte depuis longtemps. Qui te l'a dit? Mon père. Une terreur nouvelle s'empara de Blanche. Est-ce qu'elle se serait trompée? Est-ce que cet enfant qu'elle pressait contre son cœur ne serait point véritablement sa fille? Est-ce que l'homme qui la lui avait jetée dans les bras l'aurait abusée volontairement ou involontairement? Elle éleva son âme vers Dieu qui seul pouvait lui donner la force et le courage de résister à une déception. Puis tremblante, elle demanda « Comment vous nommez-vous, mon enfant ?»« Églantine ?»« Comment s'appelle votre père ?»« Pierre Prost, du village de Longchaumois. »« Il est médecin, n'est-ce pas ?»« Oui, et dans le pays tout entier, on le nomme le médecin des pauvres. »« Quel est votre âge ?»« 18 ans. » »« Avez-vous connu votre mère ?»« Non, on m'a dit qu'elle était morte en me mettant au monde. » « Avez-vous vu quelquefois, entre les mains de votre père, un bijou, un médaillon d'or, enrichi de diamants, qui renfermait une rose sauvage ?»« Je l'ai vu souvent, et c'est à cause de ce médaillon qu'on m'a appelée Églantine. » »« Savez-vous enfin quelle est la date de votre naissance ?»« Oui, je suis née dans la nuit du 17 janvier 1620. » La jeune fille avait à peine prononcé les derniers mots de cette réponse, qu'un cri de joie s'échappait de la gorge contractée de Blanche. Désormais, elle ne pouvait plus douter. Elle venait d'acquérir une certitude matérielle irrécusable. Mais en même temps, elle se souvint des dernières paroles du capitaine Lacuzon. « Voici l'enfant de la nuit du 17 janvier 1620 », lui avait-il dit. « Voilà votre fille. Elle s'appelle Églantine. Elle croit que sa mère est morte et que le médecin des pauvres est son père. Prenez-la, gardez-la. » Cachez-la, je suis Jean-Claude Prost. Je suis le capitaine Lacuzon. Je reviendrai bientôt vous sauver toutes deux. Ces paroles disaient clairement qu'Églantine ne savait rien de sa naissance. Il était manifeste que dans le but de lui conserver cette ignorance absolue, celui qu'elle croyait son père avait dû lui répéter que sa mère était morte depuis longtemps. Blanche pouvait l'éclairer sans doute, en lui révélant tous les faits qu'elle avait ignorés jusque-là. Mais pour faire briller la lumière à ses yeux, il fallait souiller la virginale candeur de la jeune fille par le récit des infâmes violences d'Antide de Montaigu. Blanche recula devant cette tâche qui semblait une profanation. « Écoute, mon enfant, murmura-t-elle au bout d'un instant, tu es bien ma fille, et je pourrais te le prouver, mais je laisse ce soin à ceux en qui, sans doute, tu as placé toute ta confiance. Ce que Pierre Prost et le capitaine Lacuzon te diront, tu le croiras, n'est-ce pas ? Oh oui, répondit vivement Églantine. Eh bien, commence à m'aimer dès à présent, cher enfant bien-aimé, car je te jure que tous deux, ils t'affirmeront que je suis ta mère. Quand les reverrai-je ? Demanda la jeune fille. Bientôt, le capitaine Lacuzon a promis de revenir pour nous sauver. Nous sommes donc en péril ? Non, mais nous sommes prisonnières. Dans la tour de l'aiguille ? Oui. Et c'est vous qu'on appelle le fantôme blanc, n'est-ce pas ? C'est moi, qui suis une pauvre captive, bien malheureuse et bien désespérée pendant des années longues comme des siècles, mais assez heureuse en ce moment pour oublier tout le passé sinistre. Plus tard, tu sauras ma vie, mon enfant. Maintenant, ne parlons que de toi. Explique-moi ta présence au château de l'Aigle. Églantine commença le récit des événements que nous avons mis sous les yeux de nos lecteurs dans le cours des précédents chapitres, et nous n'avons pas besoin d'ajouter que ces paroles furent écoutées avec une attention avide, avec un fiévreux intérêt. La fin de cette nuit se passa ainsi. Enfin, le jour parut. Il nous faut renoncer à décrire la scène touchante dont les vieilles tapisseries de la tour de l'aiguille furent les seuls témoins, quand pour la première fois, aux pâles lueurs de l'aube naissante, la pauvre mère put contempler les traits encore inconnus de sa fille. Certes, Blanche de Mirbel, dans ses longues heures de rêverie, s'était faite un idéal. Son imagination avait créé une image de l'enfant de ses entrailles, et elle s'était plu à parer cette image de tous les dons exquis, de la grâce et de la beauté. il est plus facile de comprendre que d'exprimer ce qui se passa dans l'âme de la mère quand il lui fut possible de voir que son idéal était dépassé et que la réalité allait plus loin que le rêve. Malgré la faiblesse de notre plume, nous n'aurions point reculé devant la difficulté inouïe d'essayer de reproduire cette scène avec tout son charme vivace et pénétrant. Mais nous nous sommes souvenus à temps de ce merveilleux chapitre de la « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo, dans lequel la recluse du Trouora retrouve la Esmeralda, son enfant perdu depuis 20 ans. Nous laisserons donc à l'imagination de nos lecteurs le soin de suppléer à notre silence modeste, ou plutôt nous les engagerons à relire les pages splendides du chantre des feuilles d'automne et des chants du crépuscule. 2 jours se passèrent. Aucun danger immédiat ne menaçait les prisonnières. D'abord, Antide de Montaigu n'était pas au château de l'Aigle. Et d'ailleurs, quand bien même son absence n'eût point été un nouveau motif de sécurité, une visite de lui à la tour de l'aiguille était la chose du monde la moins à redouter. Depuis plus de 15 ans, il n'avait point franchi le seuil de cette tour. Et le valet, chargé d'apporter des aliments à Blanche, agissait avec elle à peu près de la même façon qu'avec Tristan de Champdivers dans le cachot de la citerne. C'est-à-dire qu'il déposait un panier rempli de provisions sur la première marche de l'escalier et qu'il se retirait sans avoir eu la curiosité de monter plus haut et d'adresser la parole à la captive. Blanche, depuis que sa fille lui était rendue, jouissait délicieusement de ces moments de calme. Elle aurait voulu pouvoir les éterniser. Elle s'absorbait dans l'heure présente, oubliant le passé, s'efforçant de ne point songer à l'avenir et se trouvant si complètement heureuse qu'il lui semblait que tout changement ne pouvait que lui être fatal. Églantine était bien loin de partager cette opinion. À chaque instant du jour, elle se rappelait les dernières paroles adressées par le capitaine à la femme pâle. « Je reviendrai bientôt vous sauver toutes deux. » Et elle hâtait de ses vœux les plus ardents la venue du libérateur attendu. Cependant, vers le soir du second jour, une inquiétude vague commençait à se mêler au bonheur de Blanche. Des nuages orageux montaient dans son ciel à moments éclaircis. Par intervalles, pendant toute la journée, la malheureuse femme avait cru entendre dans le château des bruits d'armes, des rumeurs confuses, décelant la présence d'une nombreuse troupe d'hommes. Avec l'obscurité croissante, le silence était revenu. Mais du milieu de ce silence s'échappaient de sourds et lointains murmures, pareils à ces sonorités étranges qu'on entend dans les airs, à l'approche d'un violent orage. Que voulait dire ceci? Et l'avenir réservait-il de nouveaux malheurs à celles que le passé avait éprouvées si cruellement? Brisée par les fatigues du corps et de l'esprit, Églantine, couchée tout habillée sur le lit, dormait d'un calme et profond sommeil. Blanche, debout dans la profonde embrasure de la fenêtre qui donnait sur la vallée d'Ilet, attachait son regard sur les ténèbres épaisses et prêtait l'oreille à ces bruits douteux et confus dont nous parlions il n'y a qu'un instant. Soudain, le clairon de Garbas retentit dans les ténèbres, égrenant les notes lentes et sinistres de sa fanfare. Blanche tressaillit. Cette mélodie lugubre, pleine de terreur et pleine de menaces, s'accordait bien avec l'état de son âme. Églantine dormait toujours. Au clairon succéda la voix, les paroles qui déclaraient Antide de Montaigu, comte et seigneur de l'Aigle, 3 fois traître et 3 fois parjure, et qui le mettaient hors la loi, éveillèrent un écho dans le cœur de Blanche.
Entends-tu? Entends-tu? Murmura-t-elle en se rapprochant du lit et en saisissant les mains d'Églantine.
Quoi, ma mère? Demanda la jeune fille réveillée brusquement. Ils viennent, ils sont venus. Qui donc? Les chefs de la montagne, les héros, les libérateurs, Lacuzon, Varose et Marquis.
Ah! Cria Églantine avec un transport de joie en s'élançant du lit.
Ah, que Dieu soit béni! Nous sommes sauvés, nous sommes libres.
La voix d'Antide de Montaigu sembla se charger de répondre.
Pas encore,
car elle s'éleva par cette terrible réplique.
À vous qui vous donnez le titre de chef de la montagne. À toi, Pierre Marquis, mauvais prêtre et mauvais soldat. À toi, Jean Varose, vieux soudard édenté, dogue hargneux qui ne peut plus mordre. À toi, Lacuzon, chef d'une poignée de bandits rebelles. Moi, le seigneur de l'Aigle, moi, l'homme au masque noir, je réponds que je vous défie. et que je vous ferai pendre tous trois au créneau de la tour de l'aiguille. » Et l'on se souvient que l'infâme gentilhomme ajouta presque aussitôt « Feu sur les insolents qui osent venir attaquer l'aigle dans son aire !» et qu'une décharge formidable enveloppa le château de feu et de fumée.
« Ma mère, ma mère !»
balbutia Églantine en se jetant dans les bras de Blanche.
« Ils l'ont tuée. Nous sommes perdus !»
Mais elle n'avait pas achevé que déjà la voix retentissante du capitaine succédait au grondement de la mousqueterie et criait « À l'assaut ! À moi, mes montagnards !» La jeune fille passa sans transition de la terreur la plus profonde à la confiance la plus entière. Elle releva la tête, et de même qu'elle venait de balbutier « Nous sommes perdus !» elle murmura de nouveau « Nous sommes sauvés !»
Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 30. L'assaut. Antipe de Montaigu, nous l'avons déjà dit, craignait que le secret de sa trahison n'eût été livré par le cardinal de Richelieu au chef montagnard, et il savait bien qu'il ne devait attendre de ceci, dans ce dernier cas, ni grâce ni merci. Il résolut donc de se tenir prêt pour la défense, et convaincu que le château de l'Aigle, muni d'une garnison suffisante, était une forteresse imprenable, tandis qu'il s'embusquait dans la gorge que nous connaissons pour y tenter un assassinat sur la personne du capitaine, il envoyait un homme sûr à Clairvaux afin d'y marchander les services d'une bande de 250 gris et de les diriger immédiatement sur le château de l'Aigle. Ces soldats mercenaires arrivèrent au château presque en même temps que leur maître futur. Il leur distribua aussitôt tous les postes. Il leur donna des munitions abondantes. Il leur paya d'avance un mois de solde, et enfin il leur enjoignit de se tenir sur leur garde comme si une attaque devait avoir lieu ce même jour. Les instinctives prévisions d'Antide de Montaigu ne devaient pas tarder, nous le savons, à recevoir une confirmation éclatante. Si nos lecteurs n'ont point oublié les détails dans lesquels nous sommes entrés précédemment sur la situation du château de l'Aigle et sur ses moyens de défense, il est presque inutile de leur répéter que la forteresse était inabordable du côté de la vallée d'Ilée, grâce aux rochers taillés à pic sur lesquels elle s'élevait. Seulement dans la direction de la chaude Dombief, c'est-à-dire du côté de l'entrée principale, les obstacles à surmonter offraient plus de chances d'une réussite, sinon probable, du moins possible. Le plan d'attaque avait été arrêté d'avance entre Lacuzon, Varros et Marquis. Il était d'une extrême simplicité, mais pour le mettre à exécution, il fallait toute l'audace fougueuse et irrésistible des montagnards et de leurs chefs. Deux pelotons de 50 hommes chacun, placés sous les ordres de Marquis, étaient chargés de balayer par un feu continuel cette partie des remparts dans laquelle se trouvaient pratiquées la première porte et le premier pont-levis. Tandis que les meilleurs tireurs des corps francs s'acquittaient de cette tâche avec une grande habileté et jetaient par terre, percés de balles, tous les gris qui ne se tenaient point suffisamment à l'abri des créneaux, Varros et Lacuzon, descendus dans les fossés, faisaient dresser des échelles le long de la muraille, et la hache d'une main et le pistolet de l'autre, ils tentaient une escalade et arrivaient, suivis d'une vingtaine d'hommes, au sommet du rempart. Là, une résistance énergique les attendait. Mais cette résistance dut céder à leur irrésistible élan. Le cercle s'élargit autour d'eux, et couverts par les montagnards qui maintenaient les grilles à distance, ils attaquèrent à coups de hache les poutres auxquelles les chaînes du pont-levis étaient attachées. Tandis que le bois volait en éclats sous leurs cogniers, les décharges de mousqueterie pétillaient sans relâche. Les assaillants continuaient l'escalade à l'aide des échelles, et devant leur nombre toujours croissant, les grilles battaient en retraite, mais sans désordre et défendant le terrain pied à pied et, pour ainsi dire, pouce à pouce. Soudain, un fracas pareil à l'écroulement d'une montagne se fit entendre. Ce fracas fut suivi d'un immense cri de joie et de triomphe poussé par les assiégeants. Le pont-levis venait de tomber. Les montagnards se ruèrent sous la voûte, brisèrent la porte qui s'opposait à leur passage et, se croyant déjà les maîtres du château, envahirent la première enceinte. Mais cet avantage, quoique important, n'avait rien de décisif. Antide de Montaigu, qui combattait au premier rang et payait de sa personne avec un incontestable courage, avait commandé la retraite au moment où le pont-levis s'abattait, et les gris, après avoir reculé en bon ordre jusque-là dans la seconde enceinte, venaient de relever derrière eux le deuxième pont-levis et de fermer la deuxième porte. Bref, les montagnards se trouvaient maîtres de l'espace compris entre les deux murailles parallèles, mais ils ne pouvaient aller au-delà sans recommencer un siège plus difficile et plus périlleux que le premier, car les parties levées du château dominaient cette enceinte étroite, et les assiégés, parfaitement garantis par les profondes embrasures des fenêtres, tiraient du haut en bas sur les assaillants qu'ils ajustaient avec une parfaite et complète sécurité. Les partisans tombaient un à un sous une grêle de balles lancée par des mousquets invisibles. Aussitôt que l'un d'eux voulait riposter, l'éclair de son mousquet trahissait sa présence en rayant les ténèbres, et il devenait à l'instant même un point de mire pour les assiégés. Un pareil état de choses ne pouvait se prolonger. L'accusant fit apporter les échelles qui avaient servi pour la première escalade. Elles furent appliquées de nouveau contre la muraille, et le capitaine se tint prêt à donner le signal d'un nouvel assaut. Marquis, auquel il communiqua son projet, fut d'un avis complètement opposé au sien. « Cependant, disait l'accusant, 5 minutes d'impétuosité nous feraient franchir ce nouvel obstacle et nous jetteraient sur l'esplanade. Or, une fois l'esplanade à nous, le château nous appartiendra. » « Tu as raison, répondit le prêtre, mais nous aurons sacrifié inutilement beaucoup de monde, et la vie des hommes est sacrée. Que faire donc ? Il faut, ce me semble, que Varros tente une attaque sur quelque autre point. Que cette tentative réussisse ou qu'elle échoue, peu importe. L'essentiel est d'opérer une diversion et d'empêcher que l'attention et la résistance des soldats du Seigneur de l'Aigle ne se concentrent sur l'unique endroit par lequel nous espérons arriver à nous rendre maîtres de la place. Es-tu de mon avis, Jean-Claude ? Certes, et 100 fois pour une. Eh bien, rien n'empêche de tenter sur le champ la diversion dont je te parle. Où est le colonel ? Il doit être là. Nous avons sapé ensemble tout à l'heure les poutres du pont-levis. Barrose ! Cria le curé marquis. Personne ne répondit à cet appel. Colonel ! Dit à son tour l'accusant. Le même silence inquiétant mit une vague angoisse dans le cœur du prêtre et dans celui du capitaine. Varros n'était plus là, ou Varros était mort. Et pour quiconque connaissait le colonel, sa mort semblait plus vraisemblable que son absence au moment du danger. Cependant, les montagnards les plus rapprochés avaient entendu qu'on appelait Varros et que Varros ne répondait pas. Avec une promptitude électrique, le bruit de sa mort se répandit de proche en proche et de rang en rang, et grandissant non moins rapidement, selon la coutume des mauvaises nouvelles, ce bruit ne tarda point à affirmer que Marquis avait succombé à côté du colonel. Alors, un découragement profond, une démoralisation complète s'emparèrent de ces hommes, habitués depuis le commencement de la guerre à voir le succès couronner presque toujours leur premier élan, dans ces nombreux coups de main qui ne réussissaient qu'à force de rapidité et d'audace. Combien en ce moment la situation leur paraissait différente. L'assaut victorieux de la première enceinte ne les avait amenés qu'à un résultat sans portée. Ils se trouvaient maintenant en face d'un obstacle presque infranchissable, dans de profondes ténèbres, car les grilles avaient cessé leur feu depuis un instant et les éclairs de la mousqueterie ne rayaient plus la nuit sombre. Le château de l'Aigle, ce manoir infernal, si célèbre dans les légendes des veillées d'hiver, les enveloppait de ses mystères et de sa terreur. Et voici que 2 de leurs chefs, toujours victorieux jusqu'à cette heure, et que les balles et les épées semblaient respecter, succombaient à la fois. Et l'un de ses chefs était le curé marquis, frappé à mort, disait-on, malgré la robe rouge qui le rendait invulnérable. Elle était donc bien puissante et bien invincible, l'influence du château maudit. Il était donc sans borne le pouvoir du démon qui triomphait ainsi de la robe sacrée du prêtre. Alors, une profonde et superstitieuse terreur s'empara de ces hommes vaillants d'habitude jusqu'à la témérité. On put les entendre murmurer tout bas. « Varros est mort. Marquis est mort. On ne peut lutter contre des démons. » Et ces héros, devenus tout à coup presque lâches, songeaient déjà à s'enfuir honteusement. Cependant, quelques restes de discipline militaire et de respect humain les arrêtaient encore. Les murmures des montagnards épouvantés arrivèrent aux oreilles du prêtre et du capitaine. Marquis entendit que de toutes parts on se disait « Marquis est mort ». Et il comprit en même temps que si l'on n'arrêtait point dès sa naissance ce bruit mensonger, il ne faudrait bientôt plus compter sur des soldats devenus faibles et craintifs comme des enfants. Mais de quelle façon, au milieu de ces profondes ténèbres, de quelle façon prouver au montagnard que Marquis était bien vivant et que la robe rouge restait plus que jamais un invulnérable talisman? Étrange situation d'un homme vivant qui ne savait comment démontrer sa vie. Vainement, Marquis s'écriait « Me voilà, je suis à vous !» Ses paroles se perdaient parmi les murmures grandissants des montagnards qui répétaient « La robe rouge a disparu! Dieu nous abandonne !» Vainement, l'accusant allait de l'un à l'autre en s'efforçant de les désabuser. La terreur superstitieuse qui frappait les montagnards les rendait sourds. Ils n'écoutaient plus la voix de leur chef. « Que faire, mon Dieu, que faire ?» demanda le capitaine au curé. « Il n'y a pas deux parties à prendre, » répondit vivement celui-ci. « Il faut leur montrer la robe rouge. »« Mais comment ?»« Fais allumer des torches et commande l'assaut. Je franchirai le premier la muraille, et de cette façon, s'il plaît à Dieu, ils me verront tous. »« Oui, » répliqua l'accusant, « mais les gris aussi nous verront. »« Eh bien, qu'importe ? Vous allez devenir le but d'une grêle de balles ?»« Qu'importe ?» répéta Marquis, et il ajouta avec un sourire, « Tu sais bien que la robe rouge est invulnérable. » L'accusant, le cœur gonflé par un pressentiment funeste, obéit cependant aux volontés du prêtre. Il fit allumer des torches, et au moment où leur clarté flamboyante enveloppait dans une auréole de flammes la robe écarlate de Marquis, au moment où les montagnards rassurés poussaient une joyeuse clameur, le capitaine commanda l'assaut. Les soldats des corps francs, chez lesquels une ardeur bouillante venait de remplacer un découragement profond, s'élancèrent aux échelles. Le prêtre marcha le premier, suivi par l'accusant. Une décharge terrible partit des fenêtres hautes du château et des créneaux de la muraille. « Éteignez les torches !» cria Marquis. « Et en avant ! L'accusant ! L'accusant ! » !»« L'accusant ! L'accusant !» répétèrent les montagnards. Et animés par ce cri de guerre, ils escaladèrent le rempart avec une irrésistible impétuosité. Mais le curé ne les suivait pas. Il venait de tomber dans les bras du capitaine et de Garbas. « Êtes-vous blessé, mon père ?» murmura l'accusant avec angoisse. « Oui, » répondit Marquis. « Blessé. Blessé à mort. Mais silence, il ne faut pas qu'il sache. » Le sang qui montait à flot de la poitrine trouée du prêtre à sa gorge étouffait sa voix. Cependant, au bout d'une seconde, il reprit « Écoute, Jean-Claude, les montagnards croient à la robe rouge. Ne les désabuse pas, qu'ils ne sachent pas que Marquis est mort. »«
Mort ?» répéta l'accusant avec stupeur.
« Non, non, c'est impossible, vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas mourir. » Dans une minute, poursuivit le prêtre d'une voix presque indistincte, « dans une minute, ce sera fini. Sois calme, mon enfant, sois fort. Tu m'enterreras dans le champ sarrasin, je le veux, et surtout que ma tombe garde bien le secret de la robe rouge. Mon Dieu, Seigneur mon Dieu, protégez la cause sainte à laquelle je donne mon sang. Mon Dieu, bénissez les armes des défenseurs de la comté. » La voix de Marquis s'éteignait, les convulsions suprêmes de l'agonie raidissaient ses membres. Cependant, il eut la force d'ajouter encore « Ta main, mon fils, le secret. Adieu. » Puis il s'affaissa dans les bras qui le soutenaient. Il était mort. L'accusant, écrasé sous le poids d'une des plus amères douleurs qu'il put ressentir, essaya pendant une seconde de douter de la réalité terrible. Il s'agenouilla près du corps de Marquis et il appuya sa main sur son cœur. Mais c'était fini, bien fini. Ce généreux cœur avait cessé de battre. « Mon Dieu, balbutia-t-il, « mon Dieu, pourquoi ne m'avez-vous pas pris à sa place? Pourquoi est-ce moi qui reste vivant ?» Mais il lui fallait concentrer en lui-même cet immense chagrin. Le temps manquait pour les larmes. L'accusant se tourna vers Garbas. « Il faut accomplir la dernière volonté du héros qui n'est plus, » lui dit-il. « Il faut que le secret de la robe rouge soit gardé. Demain, nous creuserons la fosse de Marquis dans le champ sarrasin. En ce moment, prends ce corps et va le cacher dans les rochers que domine la tour de l'aiguille. Moi, je retourne au combat. » Garbas, suffoqué par les larmes, balbutia une réponse inintelligible, et le capitaine, gravissant à son tour une des échelles appuyées contre la muraille, se jeta au milieu du combat engagé sur l'esplanade et se rua sur les grilles avec une impétuosité presque féroce en murmurant à chaque coup qu'il frappait
au moins je le vengerai. »
La situation des montagnards était loin d'être rassurante au moment où l'accuson venait de les rejoindre. Plus nombreux que les gris, mais ne pouvant se déployer à cause du peu d'espace qui leur était offert, ils subissaient le feu incessant, dirigé sur eux depuis tous les bâtiments dont l'esplanade formait le centre. La mousqueterie pétillait aux fenêtres du principal corps de logis, à celle du bâtiment des hommes d'armes, à celle du bâtiment des femmes, et les pertes incessantes que faisaient subir aux montagnards ces continuelles décharges contrebalançaient l'avantage qu'ils pouvaient retirer d'une lutte corps à corps dans laquelle leur courage indomptable leur assurait la supériorité. Nous devons ajouter, pour être juste, que les gris se battaient bien et qu'ils gagnaient loyalement la solde à eux donnée par le seigneur de l'aigle. Bref, de part et d'autre, le combat était vigoureusement disputé, et il eût été bien difficile de prévoir à qui, en définitive, devait rester l'avantage. Quand un incident inattendu vint tout à coup changer entièrement la face des choses. Les assiégés entendirent soudain retentir derrière eux des clameurs triomphantes mêlées à des exclamations d'épouvante. Le feu des fenêtres se ralentit et le cri de guerre montagnard « L'accusons, l'accusons !» fut répété dans l'intérieur même du château. Les gris étaient pris entre deux feux.